Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RFI, il est 5h à Paris, 1h de plus à Damas.
Léa Boutin-Rivière.
Une vingtaine de frappes en quelques heures, un civil tué. Israël a multiplié cette nuit les raids contre la Syrie après une semaine de violences meurtrières contre la communauté druze. Défense des minorités ou stratégie bien pensée, le point dans un instant. Ce samedi 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte particulier. Multiplication des conflits, baisse des financements et montée de l'extrême droite partout dans le monde. Dans ce journal également, les électeurs australiens se pressent dans les bureaux de vote en ce moment même. Et en Espagne, l'agriculture toujours à genoux, 6 mois après les inondations de Valence. Dera, Damas, Hama ou Latakié, plusieurs régions de Syrie sous le feu israélien cette nuit. L'État hébreu a lancé une vingtaine de frappes contre des sites militaires dans le pays, faisant un mort parmi les civils. Déjà hier, Israël avait visé des cibles non loin du palais présidentiel à Damas. Ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, que le pays lance des frappes contre son voisin depuis la chute de Bachar al-Assad. Mais celles-ci, d'une intensité toute particulière, interviennent après une semaine de violence contre la communauté druze, minorité religieuse du sud syrien. Alice Froussard, Israël essaie en fait de faire passer un message.
À première vue, Israël, qui abrite aussi une population druze sur son territoire, veut se poser en défenseur des minorités de Syrie. Mardi, l'État hébreu frappait une première fois en banlieue de Damas. Un message ferme au gouvernement syrien, affirme Benjamin Netanyahou. Israël attend qu'il agisse pour protéger la communauté druze, justifie le Premier ministre. Mais ce soutien, bruyant, sert surtout les propres intérêts d'Israël, explique une habitante druze de Jaramana, jointe par téléphone, qui a préféré rester anonyme.
Israël essaie surtout de diviser la population pour diviser la terre, parce que c'est aussi leur but de mettre la main sur des villes comme Souaïda, Dera et sur les régions du sud de la Syrie. Les Israéliens veulent s'accaparer nos terres, ils veulent occuper des parties de la Syrie, ils utilisent ces violences confessionnelles comme un catalyseur, ils les instrumentalisent comme l'a fait le régime de Bachar al-Assad avant eux.
L'armée israélienne est solidement implantée en Syrie, sur Jabal al-Sher, autrement appelé le Mont Hermon. Elle verrouille l'accès au plateau du Golan et a gagné du terrain depuis la chute de Bachar al-Assad. Dans le même temps, d'après le chercheur spécialiste de la Syrie Charles Lister, Israël ne veut pas d'un État fort à ses côtés, voire cherche à encourager un changement de régime. Quant au ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, en charge des finances, il a déclaré en début de semaine, je cite, qu'Israël devait démanteler la Syrie.
Alice Froussard. Le feu israélien contre la bande de Gaza également, où 42 personnes au moins ont été tuées hier, selon la défense civile palestinienne. En parallèle, l'aide humanitaire n'entre toujours pas. Nourriture, carburant, médicaments, plus aucun bien de première nécessité ne passe les limites de l'enclave depuis 2 mois. Conclusion, les opérations humanitaires sont au bord de l'effondrement total, alerté hier le Comité international de la Croix-Rouge. Et en cette journée mondiale de la presse, sachez que 170 journalistes ont été tués dans l'enclave depuis le début de la guerre. Une hécatombe sans précédent dénoncée par l'ONG Reporters sans frontières il y a quelques semaines. RSF qui publiait à l'occasion de cette journée son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. Malgré des conclusions moroses, certains pays améliorent leur score. C'est le cas du Sénégal, passé de la 94e à la 74e place. Une avancée à saluer, même si l'ONG prévient, entre difficultés économiques et menaces sécuritaires croissantes, le spectre d'un recul du droit à l'information reste plus présent que jamais. D'autant que les autorités ont récemment décidé d'interdire de publication 381 médias qui ne remplissaient pas les critères requis par le Code de la presse. S'agit-il d'une atteinte à la liberté d'informer ? Léa Lisa Vesterhoff, entre les pros et les anti, le débat agite le pays.
Journaux, 97 journaux déclarés. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a 97 quotidiens dans ce pays ? Naturellement non. Donc si forcément il y en a les deux tiers qui ne sont pas conformes à la loi ou qui n'existent pas.
Habibou Dia, directeur de la communication au ministère du même nom, l'assure. Suspendre les 381 médias qui ne sont pas conformes aux exigences administratives du Code de la presse doit servir à mettre de l'ordre dans un secteur quelque peu anarchique selon lui. Mais pour le président du patronat de la presse sénégalaise, c'est une atteinte à la pluralité des médias. Les autorités abusent de leur pouvoir. Mamadou Ibrakane.
Si le ministre s'arroge le droit de dire qui est média, conforme ou pas, ça c'est une violation de la liberté de la presse. Ce n'est absolument pas de sa compétence.
Autre problème, les critères établis par le code de la presse ne sont plus adaptés au paysage médiatique actuel. C'est l'avis de Moussa Ngom, dont le média d'investigation très sérieux ne répond pas aux exigences de la loi.
Le code de la presse est de 2017. Le ministère aurait pu se limiter à ne pas, pour l'instant, appliquer des conditions beaucoup trop limitatives. Commencer en même temps à réviser les dispositions du code de la presse. Maintenant, si l'État du Sénégal veut nous sanctionner, au moins ces sanctions permettront d'ouvrir les yeux à tout le monde sur l'aspect problématique du code de la presse.
Une cinquantaine de médias ont été pour leur notifiés de leur suspension. La crainte est que cette décision ne restreigne au final la liberté d'informer des Sénégalais. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et selon les autorités, les médias suspendus peuvent toujours se mettre en conformité via la plateforme dédiée. Loin de ce débat, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sera, lui, à Libreville aujourd'hui pour la prestation de serment de Brice Oligui Nguema. Élu il y a un peu moins d'un mois, son mandat doit durer 7 ans. Lui est aux affaires depuis 3 ans et se verrait bien rempilé. Bientôt le verdict des urnes en Australie pour le Premier ministre Anthony Albanese. Depuis hier soir, les 18 millions d'électeurs du pays votent pour les législatives qui opposent les travaillistes actuellement au pouvoir et les conservateurs emmenés par Peter Dutton. Le tout dans un contexte, il faut le dire, turbulent, relations chancelantes avec les États-Unis de Donald Trump, préoccupations environnementales, inflation, autant de dossiers qui pèseront au moment de glisser son bulletin dans l'urne, Grégory Pless.
Cette année, ils sont plus de 40% à avoir voté par anticipation avant même le jour de l'élection. Mais il y a malgré tout la queue ce matin devant les bureaux de vote. Dans le centre de Sydney, les électeurs ne sont pas totalement satisfaits du Premier ministre et de la politique qu'il a menée ces 3 dernières années. Mais à l'image de Peter, beaucoup considèrent que les travaillistes restent malgré tout une meilleure option que les conservateurs.
Je pense qu'ils n'en ont pas fait assez sur des sujets comme l'environnement et l'activité minière. Mais leur politique en la matière reste malgré tout bien plus ambitieuse que ce que propose l'opposition.
Peter Dutton, le chef de file des conservateurs, n'a pas fait une très bonne campagne. Par ailleurs, il a largement emprunté à la rhétorique et aux idées trumpiennes. Une stratégie qui pour beaucoup d'Australiens s'est avérée rédhibitoire dans un pays où, selon un récent sondage, Donald Trump est considéré comme une plus importante menace à la paix dans le monde que Xi Jinping ou Vladimir Poutine. Et pour Ciro, Peter Dutton ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
Il pensait que c'était une bonne stratégie de surfer sur la vague Trump pour l'emporter, mais ça s'est finalement retourné contre lui.
Reste à savoir maintenant si les travaillistes l'emporteront avec une majorité absolue ou relative. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 8h, temps universel. Et vous l'entendiez, Peter Dutton s'est largement inspiré de Donald Trump, le président américain, qui décidément ne prend pas un jour de repos. Nouvelle annonce hier, son projet de budget pour l'an prochain. Sans surprise, les finances de la défense et de la sécurité intérieure devraient connaître quelques largesses. En revanche, les dépenses non militaires devraient, elles, dégringoler de plus de 20%, notamment en matière de santé et de climat. L'urgence environnementale est pourtant plus pressante que jamais. Épisodes de chaleurs extrêmes, sécheresses ou à l'inverse, inondations comme celle qu'a connue la région de Valence en Espagne il y a 6 mois. Et malgré les aides de l'État, Élise Gazangel, le secteur agricole peine à reprendre pied.
6 mois après les inondations dans la région de Valence, certains champs dévastés ne sont plus cultivables. Mais les nouvelles aides du ministère débloquées le 23 avril dernier pour indemniser les propriétaires sont loin de les satisfaire. Vicence Noverkes à Lombay, cultivateur de pêche.
Ils paieront 11 800 euros par hectare pour exproprier, mais juste les arbres ont coûté 30 000 euros. Et il faut au moins 3 à 4 ans pour obtenir de la production. Je fais quoi? C'est un combat de David contre Goliath.
Autre problème pour le secteur, le torrent de boue a détruit les routes et systèmes d'irrigation, mais il a aussi déplacé une espèce invasive dans les champs d'orangers. Près de Chiva, José Tamarit est découragé.
Ce champ, on va l'abandonner parce qu'on ne va pas réinvestir de l'argent pour cultiver l'oranger alors que ces roseaux vont grandir et les couvrir. Cet arbre, dans 3 mois, il sera mort.
Au total, près de 500 millions d'euros d'aide ont été alloués au secteur et le ministère de l'Agriculture n'exclut pas de débloquer de nouveaux fonds à mesure que les besoins seront identifiés. Élise Gazangel, Chiva, RFI.
RFI, il est 5h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.